France Culture. Bonjour à tous et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Un magazine programmé par Avril Ventura, réalisé par Perret Legras avec Mineta Diawara à la technique. Aujourd'hui, quelle éducation à l'argent ? Quels sont vos premiers souvenirs personnels avec la question financière ? Thomas Baumgartner, auteur de « L'argent des gens », dit que quand on demande à des personnes d'expliquer leur rapport au pognon, au fric, à la maille, à la thune, le mot compte des dizaines de synonymes, hein, vous le savez, surtout en argot, je viens de vous donner mes préférés, eh bien les gens évoquent spontanément des souvenirs d'enfance. Alors oui, la relation que nous entretenons avec les sous, l'oseille, le flouze, en fait il n'y a pas de synonyme autre qu'en argot, hein, résulte d'une éducation, une culture familiale, un milieu social et parfois une appétence personnelle. Et le rapport à l'argent des enfants et des jeunes dit aussi quelque chose du temps présent. Par exemple, quand des étudiants cherchent à s'orienter vers des métiers avec plein de zéros sur la feuille de paye. Et ça, on va en parler avec un sociologue. Question d'époque, donc si aujourd'hui, l'éducation financière en tant que telle rentre à l'école, nous allons tout vous expliquer avec nos invités.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures.
Il en manque une.
Vous êtes sort ?
Tout à fait sort.
Tout à fait sort. Il est 8 heures d'ailleurs, si on écoute le direct sur France Culture. Et cet extrait irrésistible de La Folie des Grandeurs est évidemment un souvenir d'enfance pour beaucoup de gens de mon époque. Le film est sorti en 1971. J'ai vérifié. Nous sommes nombreux à partager ce rapport établi dès l'enfance à l'argent, on va en parler, mais ce rapport, c'est aussi les parents qui le construisent, n'est-ce pas ? Angèle Jeannot, vous êtes à distance avec nous. Est-ce que
oui.
Vous êtes là ? Vous êtes docteur en sociologie, enseignante chercheuse à l'Université de Bourgogne au sein de l'Institut de recherche sur l'éducation, l'IREDU, bien connu des auditeurs d'Être et Savoir, attaché au Centre Recherche Culture et Société Urbaine à l'INED, et vous êtes l'autrice d'une thèse intitulé « S'investir et investir pour ses enfants, une sociologie des emplois, du temps et des budgets parentaux ». Avec nous, un autre sociologue dans le studio. Bonsoir, Joël Lélier.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Orléans, chercheur au Centre Maurice Alvax, CNRS, EHESS, ENS, INRAE.
Je
peux le dire, c'est fou.
Bravo.
Vos travaux de recherche portent notamment sur la sociologie du travail et plein d'autres sujets, la socialisation familiale et les inégalités. Vous avez notamment publié avec Christian Topalov « Gouverner la science, anatomie d'une réforme » chez Agone. Et ça, c'était un peu sur les réformes de l'université, ce qui nous intéresse aussi dans l'émission. J'ai repéré votre nom, que je connaissais déjà, dans un article de Diane Merveilleux sur ces fameux jeunes qui veulent gagner plein d'argent. Bruno Kremer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de mathématiques en collège dans l'Académie de Paris et vous faites passer le passeport EDUCFI, éducation économique, budgétaire et financière, depuis 2022 à vos élèves. On va y revenir, mais je voulais commencer par les représentations de l'argent, bah, par exemple chez des adolescents de collège. Quels ont été les échanges que vous avez eus au début en classe, quand vous avez commencé à parler finances, budget ? Est-ce que vous avez été surpris de ce que vous ont dit bien ces enfants dans ce cours un peu particulier, qui n'est plus vraiment un cours de maths, mais où on parle de chiffres ?
Alors, c'est effectivement pas vraiment un cours de maths. D'ailleurs, je ne demande pas à mes élèves de venir avec leurs affaires de maths. Alors, ce qui est le plus surprenant, c'est de se rendre compte, avec notre vision d'adulte, que ils ont des envies de beaucoup d'argent, et tout en ne sachant pas ce que cet argent leur permettrait de faire. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir 1000 euros, ce qui leur semble énorme. Ils ne se rendent pas compte que vivre avec 1000 euros, c'est difficile, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est quasiment qui revient chaque année dans dans mes classes. Ensuite, ce qui choque vraiment, et tant mieux qu'il y ait un sociologue ici, c'est que les différences de perception sont énormes entre les élèves en fonction des familles desquelles elles viennent, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu des expériences de deux amis qui se sont limite fâchés parce que il y en a une qui comprenait pas à quel point la vie pour l'autre était facile alors que la sienne était dure, voilà, et que c'était vraiment compliqué. Donc ça, ce sont des représentations et
je par parle... exemple, quand un crédit sert à rembourser une deuxième voilà, maison de campagne.
Ça, c'est ça. C'était l'histoire effectivement. Je fais travailler mes élèves sur des revenus réels de personnes qui sont exposées sur des feuilles de travail. Et donc dans l'une d'entre elles, il y a une famille qui rembourse un crédit pour une deuxième maison. Et donc cette jeune fille disait à son groupe de travail, mais qui a besoin de rembourser? Enfin, d'acheter une deuxième maison. Et donc, sa copine lui a dit, bah, nous, on est en train d'acheter la troisième. Et il y a eu une espèce de faille spatio-temporelle entre les deux, quoi. Enfin, de gouffre énorme. Et ça a créé vraiment une fracture entre elles deux. Donc, ça, ce sont des choses qui sont, que j'avais pas du tout anticipé et qui sont très surprenantes, voilà. D'autres choses qui sont dans la représentation des élèves difficiles, c'est les systèmes qui entourent l'argent, c'est-à-dire comment fonctionne une banque, comment fonctionne une assurance, des choses comme ça. Par exemple, les élèves, quand on leur parle de crédit à 3%, ils s'imaginent qu'on va rembourser 3% du montant emprunté. Et juste 3% du montant emprunté, ce qui évidemment est très très loin de la réalité. Voilà. Donc il y a toute une représentation qui est à reconstruire sur les crédits et voilà. Et du coup, le fameux slogan un crédit engage et doit être remboursé. On comprend qu'il y ait des gens qui prennent des crédits sans vraiment savoir d'où ça vient, quoi. Enfin, est-ce que ça va leur coûter vraiment?
Peut-être parce que on manque
d'éducation. Oui, bien sûr.
Éducation, est-ce à l'école de le faire ou pas? C'est toute une question. Mais pour continuer sur les représentations, Joël Lélier, quand on passe aux écoles de commerce, là, c'est complètement différent. Mais est-ce que ces élèves qui se dirigent vers des carrières très rémunératrice. Nous, au collège, on ne sait pas encore forcément quelles études on va faire. On a des représentations assez différentes les uns des autres de l'argent.
Alors, en fait, il faudrait déjà essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle de l'argent. Parce qu'en fait, l'argent renvoie déjà aux conditions matérielles d'existence. C'est ce que vient de nous dire tout de suite Bruno, juste à l'instant.
Bruno Kremer.
Bruno Kremer. Et donc, c'est pas exactement la même chose que les usages symboliques qui peuvent en être faits. Et pour les étudiants des grandes écoles de commerce, la dimension symbolique est extrêmement importante, beaucoup plus que les conditions matérielles. C'est là où se jouent des choses différentes. Lorsqu'on s'intéresse aux inégalités entre les classes sociales, et en particulier dans l'enfance ou à l'école, on voit bien que les enfants, même s'ils se retrouvent dans la même classe, ne vivent pas du tout dans le même monde. Et lorsqu'on commence à soulever la question des conditions d'argent, eh bien là, on met au jour les conditions matérielles d'existence et les inégalités dans les conditions matérielles d'existence apparaissent au grand jour, là où l'école justement cherche plutôt à essayer d'homogénéiser la condition d'élève. Donc c'est là où se joue effectivement quelque chose qui est très intéressant. Dans les écoles de commerce, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où lorsque les élèves rentrent en école de commerce, la plupart ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils savent qu'ils rentrent, et en particulier si on s'intéresse aux plus grandes, les trois parisiennes. Donc c'est des écoles d'élite dans lesquelles les élèves sont promis à des carrières de classe supérieure, élitiste. Mais souvent, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en sortie, ils veulent tous travailler plutôt dans le conseil et dans la finance.
Donc les carrières les plus rémunératrices.
Les carrières qui sont les plus rémunératrices. Mais c'est quelque chose qu'on observait déjà dans les années 90. Il y a une anthropologue qui s'appelle Karen O, qui a travaillé sur Princeton, par exemple, qui se rendait compte que les élèves de Princeton, lorsqu'ils rentrent à l'université, ils ont plein d'envies très variées. Et en sortie, ils allaient, pour la grande majorité, travailler à Wall Street.
Mais parce que ce sont aussi des études qui coûtent extrêmement cher. Si on parle des plus grandes écoles de commerce, on est sur des coûts d'études à plusieurs dizaines de milliers d'euros au cumul des années. En tout cas, plus de 10 000 euros dans l'année. Ça augmente assez vite, donc j'ai pas les prix en tête, mais
votre
si
question
on est pas
amènerait effectivement à supposer une question finalement d'arbitrage, de rationalité économique. C'est-à-dire, j'ai dû dépenser de l'argent pour faire mes études, donc j'ai intérêt à avoir un travail dans lequel je gagne beaucoup d'argent. Et ça fait partie des arbitrages. Mais en réalité, l'argent joue plutôt comme une note.
Une évaluation de sa personne, sa propre personne.
C'est-à-dire que les métiers les plus prestigieux sont ceux qui sont les plus rémunérateurs. Et réussir à obtenir, par exemple, un emploi en fusion-acquisition, qui sont les métiers qui sont aujourd'hui font partie des plus rémunérateurs pour les élèves des grandes écoles de commerce, c'est l'accès à ce qu'ils appellent la voie royale vers l'élite des affaires. Et ce qui est important, c'est que donc ils gagnent effectivement plus d'argent que les autres, mais c'est pas pour le dépenser. C'est pas une question nécessairement d'un goût pour avoir des conditions matérielles particulièrement, je sais pas, dispendieuses. C'est une logique de prestige en fait qui se joue là.
C'est exactement pour ces mêmes motivations qu'on travaille à France Culture, mais sans la feuille de paye derrière. Vous voyez, le prestige, il peut être très différent. Certaines personnes trouvent que c'est prestigieux d'être enseignant, mais on va y revenir. Je vous ai parlé de Thomas Baumgartner, qui est journaliste, producteur d'émissions de radio et qui est auteur et donc qui a écrit sur l'argent. En fait, c'est un livre d'entretien, L'argent des gens, qui a été publié aux éditions du Faubourg il y a quelques mois, en 2024. Et ces témoignages racontent la relation qui se construit en fait dès l'enfance avec le pognon, le flouze. J'ai encore plein de synonymes à ma disposition si vous voulez. Et qui change en fait assez jeune quand on commence à se rendre compte de la connexion entre cette chose dont on entend parler et la valeur des objets qui nous entourent.
C'est l'expérience en tant qu'enfant de cette première limite. Mais c'est une première. C'est une forme d'éducation qui peut être rude, qui peut être immédiate, qui peut être définitive, mais c'est une forme d'éducation. On apprend justement la matérialisation et de la valeur de l'argent sert à ça, en tout cas a servi aux enfants, aux anciens enfants que j'ai rencontrés.
Et c'est aussi apprendre la sagesse. Ce qui peut différer chez les gens, c'est à quel point ils ont accepté ou non ces limites imposées par l'argent et la vie.
Ce qui va avec cette question de l'argent en tant qu'enfant, c'est le rapport aussi aux limites établies par les parents. C'est dans la continuité. L'autorité parentale va dire ce qu'on peut ou ne pas faire avec l'argent. Donc il y a une continuité. La question de la sagesse et d'être raisonnable, elle va effectivement avec cette question-là. Et d'ailleurs, les gens que j'ai rencontrés, quand ils étaient parents, avaient aussi un propos par rapport à leurs propres enfants. J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Rodolphe, qui a deux fils, qui avait 12 et 7 ans quand j'ai rencontré. Et lui, il avait cette expérience-là, c'est que son fils de 7 ans est extrêmement généreux, a donné, comme il dit, limite ses propres vêtements. Et son fils aîné, lui, il me dit, il est quasiment trader dans sa tête, c'est-à-dire qu'il sait précisément combien il a sur son compte, la centime près. Il dit, je ne sais même pas comment il le sait. Il sait quelle voiture il veut s'acheter quand il aura son permis de conduire. Il veut une Tesla. Enfin voilà, il y a une sorte de... Il y a une projection aussi. Alors là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Il embrasse l'époque, en quelque sorte, cet enfant-là. Les enfants sont des éponges hein, aussi. Donc moi, je démarre le livre par un souvenir personnel. Je me souviens que ma petite sœur et moi, sur la banquette arrière de la voiture, fantasmer sur le gros lot du loto qui était de 30 millions de francs à l'époque. Je parle des années 80. Et il y avait un truc, il y avait un jeu en fait. Il y avait quelque chose d'extrêmement ludique. Et c'était aussi pour aller contre les choses que j'avais entendues. Les enfants aujourd'hui ne pensent qu'à l'argent. Quand on leur parle d'idéal, quand on leur parle de ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est l'argent qui arrive tout de suite. Je pense que c'est quelque chose qui est assez naturel et qui en fait n'est que le reflet de l'époque qu'on vit. Tout professionnel qui a eu l'occasion de présenter son métier face à des collégiens ou des lycéens, première question qui arrive, c'est « Vous gagnez combien ?» C'est horrible de décevoir, parce que c'est une déception qu'on peut lire effectivement dans les yeux de nos jeunes interlocuteurs. Mais c'est quelque chose qui est assez essentiel, mais qui selon moi reflète une angoisse, et qui est une angoisse qui est celle des parents, très vraisemblablement.
Et pour parler un peu des adultes, l'argent fait autorité.
Donc en fait, oui, la question de l'autorité, Peut-être que c'est ça, en fait, plus que la question, plus que le réel auquel on se cogne. La première fois, en tant qu'enfant, on a maille à partir avec l'argent. C'est, on a maille à partir avec l'argent, donc à une autorité qui, quoi qu'il en soit, nous surplombait d'une manière ou d'une autre. Et comment faire face à cette autorité et comment garder une part de notre liberté?
Et dans cette émission, nous parlons d'éducation à l'argent, une éducation qui dépend aussi des représentations des parents, de la richesse, de l'épargne, de la transmission de ce que c'est que la valeur de l'argent. Un sujet sur lequel vous avez travaillé, Angèle Janot. Je rappelle que vous êtes sociologue, mais aussi spécialiste de l'éducation. Est-ce que ces représentations sont uniquement situées socialement ou est-ce qu'il y a autre chose du côté des familles ?
Alors, c'est vrai que voilà, je rejoins tout ce qui, enfin, pas mal de points qui ont déjà été évoqués, hein, ce que les parents vont mettre derrière la valeur de l'argent et ce qu'ils vont vouloir transmettre est fortement dépendant de leurs conditions matérielles d'existence. On voit, faut bien voir que l'argent, c'est d'abord une pratique éducative. On essaie de transmettre soit des valeurs, soit des pratiques à ses enfants. Moi, de ce que j'ai pu observer, c'était déjà une différenciation, ne serait-ce que simplement sur ce qu'on considère, enfin ce qu'on met derrière la valeur de l'argent, justement, notamment dans les classes moyennes et supérieures, où en fait il y a des parents, surtout les plus diplômés, pour qui la valeur de l'argent, bah en fait, c'est la valeur des biens les plus légitimes. C'est-à-dire qu'ils vont pas considérer comme, enfin, ce qu'ils veulent en fait transmettre par l'argent, par l'usage de l'argent de poche, par exemple, c'est que leurs enfants reconnaissent ce qui est légitime d'envier, de vouloir acheter, de vouloir détenir, ce qui peut être parfois décorrélé en fait au montant financier de ces biens, puisque par exemple un livre dans une librairie peut être assez cher relativement à d'autres jouets, mais les parents vont vouloir justement que les enfants ne considèrent pas ça comme cher et qu'ils considèrent ça comme quelque chose qu'ils veulent acquérir. Et puis il y a du côté des pôles, du pôle économique des classes moyennes et supérieures, la valeur de l'argent qui se rattache plus à l'idée du travail, de la provenance de l'argent. L'argent, finalement, il est légitime à partir du moment où il a été gagné. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans ces familles, hein, c'est que les enfants vont pouvoir gagner de l'argent, par exemple, en faisant des petites tâches ou en faisant du travail scolaire. Et puis, ils vont pouvoir accumuler des sommes et ensuite acheter, finalement, n'importe quel bien, même si les parents considèrent que c'est des biens qui sont peu légitimes. Donc, ça peut être, je sais pas moi, des baskets d'une marque populaire qu'ils vont pas forcément apprécier, etc. Et donc déjà, ce que les parents vont mettre derrière cette valeur de l'argent, donc ils vont tous dire on veut transmettre la valeur de l'argent, que nos enfants connaissent la valeur de l'argent, mais derrière ça, ils vont en fait avoir des représentations bien différentes. Et puis il y a des enjeux effectivement dans les familles les plus précaires, où la transmission du rapport à l'argent, c'est d'abord réussir à faire comprendre aux enfants qu'on est dans des conditions matérielles d'existence précaires, que on pourra pas répondre à leurs envies constamment, etc. Et donc il va y avoir une transmission immédiate de ce rapport à l'argent.
Oui. Et ça me semble extrêmement intéressant parce que vous écrivez, Angèle Janot, que à travers cette éducation parfois à la privation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir parce que le budget est hyper limité, il y a une facilitation du travail parental, c'est-à-dire qu'on pose le fait qu'on ne peut pas tout acheter et donc qu'on devra dire non et on a moins à refuser d'acquérir un certain nombre d'objets, de biens, de biens alimentaires, enfin de biens de consommation dont les enfants pourraient avoir envie parce que on n'a pas d'argent. Et ça, les enfants peuvent le savoir très jeune, très vite.
Oui. Moi, j'ai rencontré des familles dans lesquelles des enfants âgés à peine de 5 à 7 ans qui allaient en course avec leur mère et qui connaissaient, enfin, que leur mère incitait à aller voir les prix, à essayer de compter, à essayer de comprendre, enfin, de l'aider en fait dans sa gestion pratique de son budget. Et ça, il me semble que c'est vraiment un enjeu d'autant plus féminin en fait parce que il me semble que déjà dans la transmission du rapport à l'argent, il y a quelque chose de très genré, puisque en fait, les femmes, ce qu'elles mettent, en tout cas, enfin les mères, moi, que j'ai rencontrées, ce qu'elles mettent vraiment en avant par rapport à l'usage de l'argent, c'est en gros comment on fait pour se faciliter effectivement le travail parental, c'est-à-dire comment on fait pour ne pas avoir tout le temps à dire à son enfant non, je ne peux pas t'acheter ça parce que je n'en ai pas les moyens, ou au contraire, dans des familles plus aisées, comment on fait pour mettre à disposition de l'argent à ses enfants pour qu'ils soient plus autonomes, par exemple, pour prendre un transport, etc., ou pour, du coup, ne pas avoir à gérer ce travail parental. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui revenait dans le discours des mères. C'était comment on utilise l'argent pour rendre autonome ou pour se faciliter, en tout cas, le travail parental, alors que la dimension de l'héritage, de la transmission du patrimoine était beaucoup plus forte dans les discours masculins des pères envers leurs enfants.
Et on va y revenir à l'argent des enfants ou à ce qu'on souhaite leur transmettre quand on dispose d'un certain capital. Mais Bruno Crémer, est-ce que vous avez remarqué une différence dans les discours des élèves filles et garçons sur la question financière, la question de l'envie ou pas de s'enrichir?
Alors, je suis pas sociologue, hein, mais...
Non, mais à hauteur de classe, on peut voir des choses.
Je réfléchis, je dirais, à très grossier, que les filles vont plus parler d'épargne, les garçons vont plus parler de loisirs. Voilà. C'est-à-dire que dans les exemples de budget dont je parle, que je présente à mes élèves, ce qui fait réagir, c'est ils épargnent tant et ils ont pas de vacances ou ils ont pas de budget pour les vacances. Voilà.
Donc dans les cas pratiques ça, que vous proposez à vos élèves d'étudier.
Je n'en avais pas fait l'analyse précédemment, mais en y réfléchissant, là, ce qui s'est passé la dernière semaine, effectivement, c'est relativement genré. Ça ne m'avait pas sauté aux yeux, mais je revis ça en ce moment, et effectivement, c'est très genré.
Et du côté des étudiants qui espèrent avoir de grandes carrières, en fait, de grandes carrières, on a tous des grandes carrières ici, mais en tout cas, c'est très rémunératrice. Les étudiantes peuvent voir ça aussi comme un outil d'émancipation, parce que être une femme qui gagne de l'argent, ce qui est une position très différente d'être un homme qui gagne beaucoup d'argent, c'est aussi devenir indépendante, et l'indépendance, c'est pas évident dans l'histoire des femmes qui travaillent pour tout le monde.
Oui, non, effectivement. Alors, les étudiants des grandes écoles, ils ont une garantie de salaire qui leur est de toute façon apportée d'une certaine manière par leur diplôme. Mais je voulais juste revenir sur deux choses. D'abord, comme vous disiez, vous faisiez la référence ici à la radio et le fait que on choisit pas l'argent d'une certaine manière. Enfin, je ne sais plus comment vous avez.
Oui, de même quand on est professeur à l'université,
même si
ça peut être des salaires considérés comme très confortables hein, par une partie de la population, ça peut l'être moins que si, par exemple, on travaille dans la finance.
En fait, l'origine de cette recherche, en fait, c'est une recherche qui était sur les élèves des grandes écoles de commerce et sur les banquiers d'affaires en fusion-acquisition. C'est construit en parallèle d'une première recherche que j'avais faite auparavant sur les danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris. Et où justement, en fait, les professions artistiques se construisent en opposition à un désir d'argent. Et donc, ils vont mobiliser plutôt un rapport vocationnel à la pratique. Et donc, la question qui se posait à moi, c'était effectivement quelle est la place que peut prendre l'argent, et est-ce que l'argent est mobilisé comme un désir pour aller vers ce type de métier, et la place que ça peut prendre plutôt dans les fractions supérieures des classes supérieures économiques. Mais alors, donc effectivement, je pense que c'est un point de comparaison. Et en fait, je voulais juste revenir sur l'idée que c'est important de pouvoir comparer ces choses-là. Et ça permet de remettre aussi, à mon avis, en parallèle, la place que ça a. Pour répondre un peu à ce que vous disiez aussi tout à l'heure, le avoir son argent fait partie... très souvent dans les représentations aussi des élèves des grandes écoles de commerce comme quelque chose qui est revendiqué. Et je me souviens par exemple d'un enquêté qui pour m'expliquer cette volonté d'aller vers la finance pour avoir son argent à soi, et qui était une façon de se présenter comme une réalisation méritocratique individuelle sur son propre travail. Et il me disait, moi quand j'étais petit, j'étais celui de la famille qui voulait pas réclamer de l'argent, même s'il me le devait. Alors, ils viennent d'une famille du 16e arrondissement. Si j'avais 5 euros d'argent de poche par mois et qu'ils oubliaient, j'avais toujours honte de leur demander. Et ils finirent en disant bah, « j'aime pas réclamer l'argent des autres, je veux avoir le mien ». Et c'est comme ça qu'il explique aussi. Donc ça rejoint ce que vous disiez, mais alors il faudrait séparer peut-être deux choses. Alors je vais reprendre un peu ma casquette de sociologue, mais séparer en fait en fonction des positions sociales, le rapport à l'argent n'est pas exactement le même. C'est-à-dire que la bourgeoisie de l'Ouest parisien, les enfants de la bourgeoisie de l'Ouest parisien ne vont jamais revendiquer en fait l'argent comme quelque chose qu'ils ont envie d'avoir. Et donc si on veut aller travailler chez McKinsey ou si on veut aller travailler au BCG ou chez Goldman Sachs, c'est pas pour l'argent, c'est parce que ce sont les meilleurs qui y vont. C'est présenté de cette façon-là en termes
d'accord.
de représentation.
De la part de gens qui sont nés riches, pour le dire
exactement.
Très vite.
Et en fait, c'est plutôt prouver sa propre valeur en allant vers ce type de métier-là. Par contre, ceux qui sont plutôt dans des trajectoires ascendantes, qui viennent pas de ce milieu-là, mais qui aspirent à une ascension sociale assez marquée, sont ceux qui sont capables de me dire bah, « moi, j'ai été recruté et dans la meilleure banque et avec un salaire de malade ». Et ça compte de dire, ben voilà, moi j'étais plus payé que les autres. Et donc c'est pas vraiment le même type de rapport qu'on va voir, mais là c'est un rapport dans lequel l'argent vient aussi. Et là c'est une femme en l'occurrence qui me disait ça. J'étais recruté à Londres dans la meilleure banque avec un salaire de malade. Et qui était une façon de montrer, d'objectiver sa valeur sociale et sa réussite sociale.
Alors avant de passer à l'éducation financière, je vais vous poser une question, Angèle Janot, sur l'épargne, parce que bon, on peut donner un peu d'argent de poche à ses enfants, mais il y a des parents qui épargnent et qui ont des discours assez variés, d'ailleurs, sur le fait de mettre de l'argent de côté. J'ai lu dans vos recherches que dès 6 ans, la moitié des enfants détiennent plus de 46 euros d'épargne. Pas énorme, mais à 6 ans, c'est beaucoup. Et un quart d'entre eux détient plus de 1159 euros.
Oui. Alors ça, c'est une recherche qu'on a entamée avec Marion Le Turc, qui est chercheuse à l'INED, donc à partir des données de l'enquête patrimoine, qui recense effectivement en partie les placements qui vont être au nom des enfants. Et effectivement, ce qu'on observe, hein, c'est que notamment à partir de 12 ans, mais en fait qu'il y a un âge où il y a des produits financiers qui sont destinés aussi aux enfants, bah, on a un fort écart entre d'un côté ceux qui vont pas détenir grand-chose, soit pas du tout d'épargne, soit un petit livret A avec une petite somme, puis ceux qui vont détenir déjà plusieurs types d'épargne, dont des épargnes très rigides, type assurance-vie. Et donc même si les montants sont jamais exorbitants, enfin les différences en termes de montants absolus sont jamais exorbitants, en fait dès l'enfance, hein, on voit qu'il y a une différenciation assez forte des pratiques d'épargne pour les enfants. Et en regardant un petit peu dans mon enquête qualitative auprès des parents, ce que ces parents disaient de cette épargne pour les enfants, effectivement, on voit d'un côté, et là je rejoins vraiment ce que vient de dire Joël Lallier sur le poids de l'ascension économique dans la constitution d'épargne, puisque il y a des familles, notamment celles qui sont en ascension économique, qui valorisent directement le fait de transmettre énormément d'épargne, une épargne diversifiée, des placements immobiliers à leurs enfants. Mais qui vont en fait mettre en avant, hein, qui vont avoir une forme de contrôle assez fort sur cette épargne, parce que ce qu'ils veulent en fait, hein, c'est que leur enfant travaille à accumuler cette épargne. Et on a aussi au sein des classes supérieures, hein, des parents qui vont être plus diplômés, souvent qui vont être issus aussi de familles plus diplômées, qui vont se refuser en fait à épargner pour leurs enfants, qui vont dire explicitement, hein, j'ai un couple qui me dit explicitement, on leur donne déjà une éducation, on va pas en plus épargner pour eux. Et en fait, derrière ça, il y a des idéologies en fait qui se confrontent, et notamment l'idéal méritocratique, hein, avec l'idée que finalement, ce qui va distinguer ces familles à grand capital culturel, ça va être le capital scolaire, l'école, réussir par l'école, par le diplôme, et puis du coup, l'accumulation de capital économique et la transmission de capital économique va faire un peu figure de repoussoir. pour ces familles. Donc on a à la fois des écarts très forts entre ceux qui n'ont rien, qui sont effectivement plutôt des enfants issus des populations les plus précaires, et puis des enfants qui ont beaucoup, qui vont être plutôt issus des classes supérieures à dominante économique, en ascension sociale, ou alors qui vont avoir des parents indépendants qui vont aussi avoir du patrimoine professionnel à transmettre.
Donc une forte dimension familiale dans cette culture de l'argent qui n'est pas totalement connectée au revenu, mais vraiment à une manière de gagner ou d'avoir cet argent ou ce patrimoine. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler à l'école? On a commencé à évoquer l'éduc-fille avec ce passeport éduc-fille. Alors, chers auditeurs et auditrices, je vous raconte une petite histoire un peu étrange. Il y a en ce moment un stagiaire qui s'appelle Ibrahim, qui est un ami de mon fils. Il est en seconde, il est en lycée pro. Son enseignante vient nous rendre visite aujourd'hui parce que c'est un stage qui dure un mois et qui est un peu long. Et je m'aperçois qu'elle aussi, et pourtant ses enseignants sont rares, donne des formations éduc-fille dans son lycée professionnel. Elle s'appelle Dalinda Korn, elle est enseignante en éco-gestion, donc dans un lycée professionnel de l'Académie de Paris.
L'idée, c'était de rendre la notion d'argent accessible aux élèves via des thématiques comme la monnaie, les arnaques, qui sont de plus en plus fréquentes. On s'est rendu compte que les élèves avaient une appétence pour tout ce qui concernait les systèmes de paiement, notamment cartes bancaires et paiements en ligne. Ça leur permettait notamment de pouvoir se former là-dessus. En lycée professionnel, nous, on a cette particularité, c'est que les élèves font des périodes de formation en milieu professionnel, PFMP, qui sont rémunérées depuis l'année dernière. Donc, ils reçoivent une gratification de stage. Et cette gratification, effectivement, on se dit, l'élève va se dire, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la gère? La gestion de l'argent commence dès la seconde. Et c'est tout à fait pertinent de commencer à parler d'argent et de savoir notamment gérer son budget pour notamment savoir que si on dépense trop, on a moins de ressources. Et qu'est-ce qu'une ressource? Qu'est-ce qu'une dépense? Et le solde, s'il est débiteur, effectivement, il n'y a plus rien sur le compte. Et qu'est-ce qu'un compte bancaire, notamment? Ce qui était étonnant et enrichissant pour ma part, même en tant que professeur, c'est de se rendre compte que c'était un thème qui les a passionnés, en fait. L'argent, ils posaient énormément de questions sur le compte bancaire, sur pourquoi on est en débit, en crédit au niveau de la banque. L'épargne, qu'est-ce que c'est que l'épargne? Certains pensaient qu'on gardait l'argent de côté, sous le lit, sous le matelas, comme on dit. Mais effectivement, il y a énormément de thématiques qui passionnent nos élèves liées à ces questions d'argent. Éduc-fille, avec ce que propose la Banque de France et l'Éducation nationale, est tout à fait à même de répondre à ces thématiques et rend l'expérience plus ludique pour nos élèves.
On sait que pour les professeurs, la question de la rémunération est ultra sensible et que dans les services publics en général, on n'est pas très très bien payé. Donc est-ce que vous parlez de cette question du salaire et puis de la connexion entre l'intérêt du travail et le salaire?
Nous, en tout cas, dans nos matières, en lycée professionnel, on est amené justement à parler d'argent puisqu'on voit avec nos élèves tout ce qui concerne le contrat de travail, la fiche de paye, on fait exactement des thématiques en lien avec la rémunération. Donc après, les questions d'ordre pourquoi travailler, l'utilité du travail, ou est-ce que le travail est forcément bien rémunéré par rapport à ce qu'on en voudrait, enfin les attendus, ça c'est des questions un peu philosophiques, on va dire, c'est du cas par cas, mais on répond aux questions de nos élèves évidemment en leur disant qu'effectivement tout ce qu'on fait c'est enrichissant. Quel que soit le travail qu'on va faire, on va apprendre. Et quelle que soit la rémunération qu'on aura, on aura forcément une progression dans notre vie.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Et on parle d'argent dans cette émission. On en parle avec des enseignants comme vous, Bruno Crémer. On vient d'entendre Dalinda Korn qui donne des cours d'éduc-fille, éducation financière et même un peu plus à ses élèves de lycée pro. Vous êtes en collège. Quand on a commencé à échanger, vous m'avez dit, mais au départ, vous aviez un peu des doutes parce que c'est pas tellement aussi dans la culture enseignante. Vous êtes professeur de mathématiques que d'aborder ces questions peut-être un peu triviales de dépenses, budget. budget. Est-ce que, d'ailleurs, vous avez l'impression que ça marche bien auprès de vos collègues? Comment ça s'installe ou non?
Alors, comment ça s'installe? Ça, c'est un petit peu compliqué, puisque quand j'ai fait la... Quand on a été, on nous a présenté ce programme, c'était en 2022, si je me souviens bien, c'était en 2022 et on était deux collègues de maths de mon collège à être allés à cette présentation. Et il se trouve que par le jeu des années qui se suivent, ce collègue n'a plus les quatrièmes. Depuis. Et du coup, je suis le seul dans mon établissement à avoir suivi cette présentation, formation, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, mais j'ai deux quatrièmes sur les quatre de mon établissement. Du coup, on peut considérer que je forme 50% des élèves de mon collège.
C'était pas vraiment ma question. Mais est-ce qu'au départ, ça vous semblait pas... Alors, un peu loin de l'école?
Au départ, effectivement, j'étais pas très demandeur. Voilà, et je suis allé à cette formation un petit peu en traînant des pieds, mon collègue également d'ailleurs. Et en fait, à Citeco, qui est le musée de l'économie, où on a eu cette présentation, les choses se sont bien passées. L'accompagnement par la Banque de France était plutôt bien fait. Les supports pédagogiques proposés étaient intéressants. Après, les supports pédagogiques, moi, mon métier, c'est de m'en emparer et de les faire à ma sauce après. Mais en tout cas, il y avait du matériel et cette présentation, elle sortait de l'ordinaire par rapport à d'autres présentations qu'on peut avoir dans notre carrière d'enseignant. Et du coup, c'était plutôt intéressant.
Mais pourquoi? Quel est l'intérêt pour vous, en tant que professeur de mathématiques? Bon, bien sûr, on va manipuler des chiffres. On va revenir après au support pédagogique, ça m'intéresse aussi, de parler de ce sujet. Est-ce que c'est la mission de l'école, à vos yeux, que de transmettre cet aspect de la culture, qui est plus une culture pratique qu'une culture académique, quoique?
Alors, peut-être que c'est pas là-dessus que moi... Ça m'a séduit, c'est plus sur l'aspect éducation, c'est-à-dire que l'école va apporter une espèce de socle commun, le terme, je l'ai très mal choisi, je suis désolé par rapport
au socle commun des connaissances. Voilà. À quelque chose.
Mais voilà, donc une espèce de connaissance commune qui finalement, quand on y réfléchit, et je pense que justement on n'y réfléchissait pas, on se posait pas la question, et en ce sens le programme de l'Union européenne est intéressant, les élèves n'ont comme seule arme quand ils arrivent sur le monde du travail ce que leurs parents leur ont fourni. Et du coup, il y a une différenciation qui est énorme. Et du coup, est-ce que le rôle de l'école n'est pas justement d'atténuer ces différences? Je pense de plus en plus que si. Voilà.
Donc avec peut-être un propos plus concret, parce qu'on va faire des sciences sociales et économiques au lycée.
C'est exactement ça.
Ça prolonge tout à fait ce que vous alliez... Enfin, je pense que j'anticipe un peu ce que vous alliez dire. Qu'est-ce qu'il y a dans vos cours?
Alors, je ne vais pas à proprement parler des cours, c'est-à-dire les élèves ne prennent pas de notes ni quoi que ce soit. C'est de l'interaction. Dans le matériel pédagogique de la Banque de France, on a un jeu qui s'appelle « Mes questions d'argent », qui est un jeu de questions-réponses avec des cartes, voilà, et, du style « Qu'est-ce que c'est qu'une assurance ?» Dans un achat, quelles sont les deux personnes concernées, l'acheteur, le vendeur, etc. Et en fait, moi, je m'en sers pour lancer les discussions, pour déjà capter l'attention des élèves. Voilà. Et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que petit à petit, tous les élèves s'impliquent. Voilà. Et ça, ça prouve qu'en réalité, chez eux, il y a une demande, parce que, ils se disent, on va parler d'argent, moi j'en ai pas forcément, ou au contraire, moi j'ai pas de problème d'argent, ou des choses comme ça. Je sais pas trop ce qu'ils se disent d'ailleurs, mais en tout cas, petit à petit, ils entrent dans le jeu, et ils participent, et ils me livrent leur représentation des choses. Et ça, ça me permet aussi de les corriger. Et finalement, c'est la base de mon métier, quoi. Voilà.
Et ensuite, vous leur expliquez, par exemple, ce que c'est qu'un budget, ce que c'est qu'un prêt.
Oui, Oui. Alors là, je suis prof de maths, donc calculer des pourcentages, c'est aussi ma mission, je dirais. Donc effectivement, dans le petit livret que j'ai fabriqué, je leur montre comment comment se calculent des agios, par exemple, sur un relevé bancaire, avec les agios concernant le découvert autorisé et le découvert non autorisé. Voilà, des choses comme ça. Je leur montre comment se calculent les intérêts d'un prêt. Et voilà, donc ça, c'est vraiment concret et ça rentre parfaitement dans ma discipline. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, je leur parle à quoi servent les impôts, quels sont les impôts qui existent. D'ailleurs, ils ont des représentations qui sont assez bonnes. Alors, on va pas se mentir, la TVA, ils ignorent totalement son existence. Voilà, ils savent pas ce que c'est qu'un prix hors taxe et un prix TTC.
C'est vrai que c'est pas indiqué en français.
Je dirais qu'il y a absolument pas à s'en inquiéter parce que effectivement, dans la vie d'un enfant, je pense pas que ça c'est un rôle. Mais du coup, leur dire que la TVA, c'est l'impôt qui finalement représente une part quand même très importante et que c'est un impôt que tout le monde paye de façon discrète, on va dire, je sais pas comment cacher, je sais pas comment on peut présenter les choses, c'est quelque chose qui les intrigue. Voilà, je dirais pas les fascine, mais en tout cas les intrigue. Voilà. L'autre chose sur laquelle ils réagissent le plus, c'est les intérêts des prêts.
Et donc les banques, donc la Banque de France va-t-elle dans le sens des banques? Parce que quel est l'intérêt pour vous, selon vous, de la Banque de France que de s'investir, puisque c'est dans cette éducation?
Il y a un intérêt
à l'argent ou en tout cas aux finances et aux finances presque domestiques.
Il y a un intérêt parce que je dirais que une des présentations là quand je fais l'étude des familles, j'essaye toujours de finir par une famille, je vais l'appeler une famille Zola pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire, mais une famille qui est en difficulté. J'en ai deux dans mon panel. J'ai une étudiante qui vit seule et dont le revenu est de
donc pour y revenir, parce que moi j'ai lu vos fiches, voilà. Donc ce sont des cas pratiques que vous avez créés pour illustrer.
Alors, je les ai pas créés, ce sont des vraies situations familiales que j'ai cherché
qui
dans
sont
la presse.
Pas celles des élèves.
Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, en fait. Et d'ailleurs, dans le discours de la Banque de France à la présentation à Citeco, c'était quelque chose qui était souligné. Il est important d'aborder le fait que les crédits peuvent mener à l'endettement, voire au surendettement. Et du coup, cet aspect des choses-là montrait que il y a un programme de la Banque de France qui est prendre en main les familles surendettées. Tout ça, ce sont des choses qui dans l'esprit du programme, j'ai l'impression, une vocation à montrer aux élèves la voie dans laquelle il ne faut pas aller.
Oui, mais c'est presque l'État qui réintervient dans l'école, mais d'une autre manière, en tenant un discours sur la bonne gestion. Pourtant, l'argent, et je vais revenir vers Angèle Janot pour poser cette question, mais vous pourrez intervenir après, Joël Lélier, c'est une question ultra politique, parce que ça soulève aussi celle des inégalités, par exemple, inégalité devant l'héritage. On sait aujourd'hui, il y a des études qui ont paru récemment sur le fait que aujourd'hui on ne pouvait plus s'enrichir si on n'était pas héritier, et en fait on avait énormément de mal à devenir propriétaire et à devenir riche tout simplement si jamais c'était un objectif dans sa vie. Mais cette question des inégalités, est-ce qu'elle est présente tout simplement dans les discours parentaux? Pas tous évidemment, mais est-ce que vous l'avez repéré, inégalité et injustice aussi, donc Angèle Janot?
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, plus on va parmi les plus riches, plus la part de patrimoine hérité est forte. Donc, en gros, pour faire partie des ultra riches, finalement, il faut être héritier. Donc, il y a une place de plus en plus importante de l'héritage, qui est une place qui se retrouve dans les discours. Effectivement, il y a quand même, les enfants restent quand même les héritiers privilégiés dans les discours, dans le droit français, etc. Après, sur Pardon, du coup, j'ai oublié votre question en rappelant ça.
Sur la politique, donc est-ce que il y a une vision de l'argent comme une question déjà politique dans la manière dont il se distribue dans la société, et puis si on doit parler à ses enfants, ben, je sais pas, on leur parle d'inégalité, les riches, les pauvres, est-ce que il y a une question morale qui peut être soulevée par les parents, morale vis-à-vis de l'argent. Par exemple, il y avait un personnage, d'ailleurs il existe toujours, Robin des Bois, celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres, qui fait partie de la culture populaire et enfantine. Mais que disent les parents à qui vous avez parlé?
Oui, c'était sur ça que j'allais enchaîner. Effectivement, les parents, notamment les plus riches, voient l'argent comme un tabou, justement dans le rapport que ça crée aux autres. C'est-à-dire, ils me disent qu'ils sont assez angoissés à l'idée que leur enfant ait des propos justement qui montrent trop leur richesse aux autres. Typiquement, j'ai des parents qui me disent qu'ils vont pas habiller leurs enfants avec des vêtements de marque trop visibles parce qu'ils ne veulent pas en fait que leurs enfants soient perçus comme riches. Et donc ils ont quand même ce souci et notamment parce qu'ils mettent en avant que comme leurs enfants sont jeunes, ils ne vont pas avoir la capacité à comprendre les inégalités, ils ne vont pas avoir la capacité à comprendre justement que leur camarade a pas les mêmes moyens qu'eux. Et donc un des moyens qu'ils utilisent, ça va être de masquer tous les signes de richesse de leurs enfants. Et puis ils vont mettre effectivement dans leur discours énormément l'idée qu'il faut qu'ils connaissent la valeur des choses justement pour qu'ils se rendent compte petit à petit qu'ils font partie des enfants riches et que ça peut poser des problèmes parfois dans le rapport aux autres. Alors après, il y a effectivement des parents qui essaient même d'aller plus loin en politisant davantage le discours autour des inégalités. Alors ça, moi, je l'ai surtout retrouvé, l'idée de politiser les inégalités. C'était quand même beaucoup plus dans le pôle culturel des classes supérieures qui ont pas forcément beaucoup de ressources économiques ou qui sont très diplômés, qui n'ont pas forcément des salaires très très élevés, qui vont être soucieux de politiser un peu plus ce discours autour des inégalités. Et par contre, au sein des plus précaires, ça, je retrouvais très peu cette idée qu'il fallait que les enfants comprennent qu'il existe des inégalités et que les parents n'objectivaient pas ce genre de choses.
On sait, Joël Lélier, que on sait, enfin, c'est prouvé par des économistes, c'est par exemple ce que dit Thomas Piketty, que parmi les plus riches, mais vraiment le 1% des plus riches, voire le 0,1%, on s'enrichit beaucoup ces dernières années. Est-ce que parmi ceux dont c'est l'objectif que de faire partie de cette tranche restreinte, mais très riche de la population, il y a encore une conscience de ce que sont les inégalités, de ce que ça peut représenter d'être pauvre ou de d'être précaire, qui aussi la condition des étudiants. Aujourd'hui, on parlait des artistes, mais pas seulement. On sait qu'il y a beaucoup plus, pas de tous les étudiants, mais on sait qu'il y a beaucoup plus d'étudiants pauvres à l'université, etc.
Oui, alors... Il y a des transformations assez récentes sur ce qu'on appelle les élites, donc les 1% les plus riches. Je préfère parler de bourgeoisie établie, par exemple. Mais c'est à peu près la même chose. Dans les transformations, quelque chose qui intéresse votre question au premier chef, c'est l'idée que la position qu'on occupe, elle est méritée. Et de ce point de vue-là, il y a une certaine sensibilité, c'est ce que disait aussi très très bien juste à l'instant Jacques Janot, une très grande sensibilité dans ces fractions supérieures des classes supérieures à inculquer aussi une valeur morale à l'argent et à faire attention à pas trop montrer aussi les différences par rapport aux autres. En fait, les classes supérieures et valorisent de ce fait très fortement l'argent gagné par le travail. Et aujourd'hui, elle se revendique beaucoup plus de ce type d'accumulation de richesses et sur l'idée que, eh bien, cet argent, il est mérité. Juste pour une anecdote, pour quelque chose, pour saisir ça, par exemple, la finance est partagée en deux grands ensembles. La finance de marché, les traders, la figure du trader qu'on connaît bien par les films, et puis plutôt ce qu'on appelle la corporate finance, la finance d'entreprise, la banque d'affaires, etc. Les gens qui travaillent en banque d'affaires trouvent ça absolument illégitime, les salaires des gens qui travaillent en finance de marché, parce qu'ils considèrent que c'est de l'argent gagné facilement. Alors qu'à l'inverse, ceux qui travaillent en banque d'affaires, parce qu'ils ont une plage horaire très grande, ils vont travailler jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, le samedi, le dimanche, considèrent que leur salaire est parfaitement légitime. Et donc c'est aussi une façon de moraliser l'argent, de moraliser la richesse, de la présenter comme quelque chose qui relève du mérite et qui vient la justifier. Et en même temps, vous avez raison de noter cette idée de ne pas trop montrer la distinction sociale. C'est-à-dire, il y a l'idée quand même, chez les classes supérieures aujourd'hui, de se penser un peu comme des classes moyennes.
Et alors là, on ne parle pas des 1%, on parle des gens qui ont des revenus confortables et qui payent...
Non, là, je parle même des 1%. Gens,
De pas avoir l'air...
Oui, vous allez me dire que tout le monde n'a pas une maison à l'île de Ré, un appartement dans le 16e et un pied-à-terre à Londres.
Voilà.
Je l'entends bien.
Mais la normalité, le fait de se voir comme ayant une vie somme toute...
Oui, ou en tout cas de faire en sorte que ces enfants essayent de percevoir ça comme une forme de normalité, en tout cas, d'essayer de pas
et en même
montrer
temps,
trop une trop grande
distinction
sociale.
C'est hyper étrange parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une forme de sécession scolaire. Bon, Bruno Kremer, vous enseignez en collège public, mais ce qu'on voit même dans les très beaux quartiers, vous parliez de l'Ouest parisien, c'est que beaucoup de ces familles ne fréquentent pas des établissements publics. Pour, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est parfaitement... Oui, pour l'entre-soi, c'est parfaitement étudié. Je pense à Youssef Soudi qui a écrit sur la question, et c'est lui qui utilise ce terme de sécession scolaire. Donc, il y a aussi cette idée de rester dans un monde de riches. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Alors, en fait, c'est une histoire de perception, en fait, et de conception. C'est-à-dire que la bourgeoisie d'affaires habite toujours dans les mêmes quartiers, met ses enfants dans les mêmes écoles, que ce soit Franklin, que ce soit Stanislas, etc. Donc, en fait, sur ce côté-là, ça n'a pas changé. Ce qui change pour eux, c'est qu'ils ne considèrent pas cette situation comme un héritage, mais comme l'établissement d'un statut social mérité sur le fait qu'ils sont d'abord, ils relèvent d'une excellence scolaire, donc ils ont fait des grandes études, et puis ils ont transformé cette excellence scolaire en excellence professionnelle, en travaillant chez Goldman Sachs, JP Morgan ou McKinsey. Et donc, de cette façon-là, ils ont réussi à établir une position dans la bourgeoisie. Mais les enfants qui ont grandi dans le 16e arrondissement, une fois qu'ils s'installent et qu'ils ont des enfants, ils retournent dans le 16e arrondissement.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du quartier même où se situe la maison de la radio, mais sachant que ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes, mais c'est amusant. Ce qu'il faut dire et rappeler, c'est qu'en France, les personnes les plus riches, si on doit parler d'argent et le dire très simplement, sont aussi des gens dont les enfants sont très diplômés par les diplômes, même si on va dans une école privée, ce sont aussi des diplômes estampillés université française, des diplômes nationaux.
Alors, ils vont pas à l'université.
Non, ils vont pas du tout à l'université.
Sauf pour la médecine et le droit.
Mais ce sont des vrais diplômes. Je sais pas, des écoles qu'on paye, parce que ça existe aussi dans les écoles à but lucratif. On cherche à obtenir des diplômes solides.
Oui. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui est très étonnant, et ça, on en voit la différence, même à l'intérieur des écoles de commerce. Les élèves qui viennent de ces fractions des classes sociales-là, ils ont les cousins, les cousines qui ont été à HEC, à l'ESSEC, à Centrale, à Polytechnique. Ils ont les oncles qui ont été aussi dans ces mêmes écoles.
Je voudrais finir sur un aspect un peu plus culturel de l'argent qui me semble intéressant. On a parlé de la Cité d'économie, je voulais parler de la Monnaie de Paris qui fête un grand anniversaire cette année. Il y a plein d'expos, plein d'ateliers aussi pour les enfants. J'en ai parlé avec Béatrice Coularé, elle est directrice. Docteur en histoire de l'art, responsable des collections et de la conservation au musée donc de la Monnaie de Paris. Elle est extrêmement passionnée et elle nous parle de certaines choses qui sont proposées pour réaliser ce que c'est que notre histoire commune. qui est vraiment l'histoire de la France et du monde avec l'argent qui est une chose matérielle.
On est au 6e siècle avant Jésus-Christ, on est vers 560 avant Jésus-Christ. Et donc cette première pièce de monnaie qui s'appelle la Créséide, créée notamment et mise en circulation par le roi Crésus, qui véhicule donc à la fois une image, une identité souveraine, puisque c'est le roi qui est identifié par le biais de symboles tels que la tête de taureau, la tête de lion, les deux affrontés. Donc ça raconte une histoire, et cette matérialité de la pièce, qui est à la fois symbolique et en même temps qui représente donc cette autorité, et qui va progressivement, au fur et à mesure que les siècles vont passer, évidemment, je dirais, circuler de main en main et permettre l'essor du commerce, l'essor des échanges, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Notre musée raconte tout ça, donc avec des vitrines mises en scène, mais aussi par le biais donc de ce multimédia interactif qu'est le Numiscope, qui raconte 12 histoires liées à des monnaies emblématiques de l'histoire de France, puisqu'en fait, l'histoire de la monnaie, c'est l'histoire de France en quelque sorte. Donc tout ça, ça va ensemble, et ce qui fait que cette matérialité, elle se voit par les objets présentés en vitrine, mais aussi par les multimédias qui accompagnent les objets, et puis après, par tout un ensemble d'autres dispositifs qui permettent de comprendre comment elle est fabriquée, notamment par les machines que l'on utilise, etc., et cette évolution au travers de l'histoire.
Et c'est gratuit pour les enfants.
Absolument. Donc après, vous avez les groupes scolaires, vous avez toute une tarification. Mais en tous les cas, notre but, c'est de faire que la parole, en fait, passe par les enfants, parce qu'ils commentent aussi. Et nous avons notamment des ateliers, par exemple, Fabrique ta médaille. Alors ça, ça va du CE1 à la 4e, où là, justement, on donne la possibilité par le faire soi-même, donc fabriquer un petit objet qui permet de comprendre comment on fabrique une médaille, parce que la médaille, certes, ce n'est pas une monnaie, c'est un objet commémoratif, c'est un objet qui représente soit un personnage, soit un événement, soit quelque chose qui est pour commémorer, célébrer, mettre en avant un événement de l'histoire qui est important. Mais ça, donc, c'est un atelier qui est vraiment, je dirais, fait pour développer un sens artistique. Et après, donc, l'atelier où on peut fabriquer soi-même, eh ben, ils vont pouvoir choisir un modèle qui leur a vraiment plu, qu'ils vont restituer en créant aussi un petit objet. Et au-delà de ce que l'on peut croire, finalement, le cash, la monnaie physique, ne va pas disparaître. Et les Français, ils sont quand même très attachés. Donc finalement, ben voilà, c'est pas fini. L'histoire va encore se construire par le biais d'autres monnaies qui vont continuer à être utilisées. Donc voilà, à la Monnaie de Paris, le musée explique tout ça.
On parle d'argent dans Être et Savoir ce soir. Ça intéresse vos élèves, Bruno Crémer, la matérialité?
Oui, j'ai été très surpris cette année. Des élèves m'ont posé plusieurs questions sur comment on fabrique l'argent. Alors, il y avait le côté vraiment très physique, c'est-à-dire comment un billet, de quoi c'est fait, les pièces, machin, qui fabrique ça, les ouvriers qui sont dans les usines, ils doivent s'en mettre plein les poches, enfin, toutes les représentations de films de gangsters qui tournaient autour de ça. Et puis, il y a eu deux élèves qui m'ont posé la même question, qui m'ont dit, mais qui décide combien on fabrique d'argent ? Là, j'ai été stupéfait parce que je m'y attendais pas du tout. J'ai dû faire appel à des très, très vieux souvenirs de seconde où on m'avait expliqué ça en sciences éco. Voilà. Mais bon, j'ai un petit peu botté en touche pour dire que c'est compliqué, qu'il y a une histoire de PIB, enfin voilà, qu'on décide pas, la Banque de France ne décide pas de fabriquer autant d'argent qu'elle veut, parce que sinon, j'ai parlé d'inflation, sinon l'argent perd sa valeur.
La fameuse planche à billets, mais c'est une grande question. On reçoit souvent des profs d'SES. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à tous les invités des pastilles, comme on dit dans l'équipe. Je redis un mot sur Perret Le Gras. Merci Perret, c'est précieux de travailler avec un réalisateur aussi rigoureux que gentil. Et dans ma bouche, c'est un vrai compliment. Merci à Avril Ventura qui a un flair incroyable. On l'entend toutes les semaines, en plus de son talent littéraire, pour trouver des professeurs passionnants et passionnés qui montrent ce que pourrait faire l'école, l'université, pour les élèves, les étudiants, nos enfants. On se retrouve avec un immense plaisir, un autre jour, une autre heure, mais encore une fois l'année prochaine, donc à la rentrée 2025.